Vous écoutez France Inter, il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir cette question, faut-il individualiser l'allocation adulte handicapé? Faut-il la déconjugaliser comme le réclament les associations et l'opposition? L'affaire n'est pas nouvelle, elle a déjà enflammé le Parlement à plusieurs reprises ces dernières années. Et ce n'est pas fini, car le dernier texte voté par le Sénat à majorité de droite le mois dernier va revenir en séance la semaine prochaine à l'Assemblée, à la faveur d'une niche parlementaire réservée au Parti communiste. Or, on sait que les débats de niche donnent parfois lieu à des surprises. La majorité a d'ailleurs déjà été mise en difficulté sur cette question, qui a donné lieu à une pétition ayant recueilli 100 000 signatures sur le site du Sénat. Des signatures pour dire que l'amour ne doit pas priver les personnes handicapées de ressources. Alors ce soir, on va tenter de comprendre précisément de quoi il retourne à propos de cette allocation que touche 1 200 000 personnes et voir ce que le gouvernement propose à la place de l'individualisation, un système d'abattement fiscal qui doit entrer en vigueur en janvier prochain. On se demandera au passage à quoi renvoie la conjugalisation de notre système social et fiscal. Avec nous pour en discuter, pour répondre à vos questions et tenter d'y voir plus clair, deux députés. Christine Cloarec-Lenabour, bonsoir.
Bonsoir.
Députée En Marche d'Ille-et-Vilaine, membre de la Commission des Affaires Sociales. Avec nous également Sébastien Jumel, bonsoir.
Bonsoir.
Député communiste de Seine-Maritime, qui va remettre le texte donc en débat jeudi prochain. Merci à tous les deux d'être là ce soir en studio. Je précise qu'on sera également en ligne au cours de cette émission avec la présidente de l'association APF France Handicap pour une intervention ponctuelle. En tout cas, n'hésitez pas, surtout, appelez France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous allons retrouver Sabine, qui est en ligne et qui nous a appelé. Bonsoir Sabine.
Bonsoir.
Je ne sais pas de quel endroit vous nous appelez, Sabine.
Bordeaux.
Vous nous appelez de Bordeaux et vous êtes vous-même atteinte d'un handicap et très concernée par cette question?
Oui, je suis atteinte d'une myopathie dégénérative. Donc qui évolue, je ne peux pas travailler. Et j'ai eu la surprise de voir mon allocation adulte handicapé passer de 902 euros à 246 euros.
Et qu'est-ce qui s'est passé pour ça, Sabine?
Mon mari a déclaré des heures supplémentaires. Et donc, ça a fait que tout s'est cassé la figure. Et il touche que 2016 euros par mois. Donc c'est calculé sur les revenus du conjoint, ce qui fait que c'est la dégringolade.
Vous le vivez mal?
Je le vis très mal parce que une fois que toutes les charges ont été déduites, il nous reste 540 euros pour vivre à 4. Et ce qui nous sauve la vie, c'est que ça fait deux fois qu'on a interrompu notre prêt immobilier qui est de 1000 euros par mois, deux fois 6 mois. Donc on peut respirer depuis que c'est arrivé. Et il reprend en mars et en mars, je bascule dans la précarité. Parce qu'on ne peut pas vivre avec 540 euros par mois, c'est pas possible. C'est strictement impossible.
Et vous vivez ça comme une injustice, Sabine?
Mais complètement, parce que moi je ne peux pas travailler, j'ai rien demandé. Et moi je pensais que l'allocation adulte handicapé, pour moi, c'est un substitut, on nous donne de l'argent pour compenser le fait de ne pas travailler. Donc pour moi, c'est 900 euros, c'est une compensation en fait.
Mais évidemment.
Et donc c'est une vraie injustice, c'est pas possible. On nous prive le droit aussi de nous marier, hein, puisque si je me marie demain avec mon conjoint, on me supprime l'allocation adulte handicapé et je deviens entièrement à sa charge. Voilà, on n'existe pas.
Merci.
On ne nous voit pas, on ne nous entend pas.
Eh bien écoutez, ce soir on va vous entendre et puis surtout on va essayer de décrypter un petit peu tout ça avec nos invités. Un très grand merci Sabine de nous avoir appelé. Christine Cloarec-Lenabour, comment vous réagissez quand vous entendez Sabine?
C'est toujours compliqué, mais je crois que là c'est plus une question de reste à vivre que de conjugalisation ou déconjugalisation. Je veux juste apporter une...
Eh bien, écoutez, on va peut-être commencer peut-être par préciser les choses. On va reprendre les choses depuis le commencement. Cette AAH, cette allocation adulte handicapé, 1 200 000 bénéficiaires, quelles sont les conditions pour la toucher?
Alors, il faut être atteint, avoir une incapacité d'au moins 50%. Et puis, pour avoir une AAH à taux plein, il faut une incapacité, à taux plein, une incapacité de plus de 80%.
Ce qui est le cas de Sabine. Il y a cette condition, évidemment, oui, qui est liée au handicap. Et puis ensuite, il y a une question liée au revenu du foyer. C'est le principe même de cette allocation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on réduit son allocation. Là-dessus, vous êtes d'accord?
Ah oui, complètement. Mais c'est un héritage de 1975, on a un système de protection sociale qui est basé sur la solidarité nationale et la solidarité familiale. Là, c'est la solidarité entre époux. Je voulais juste dire à Sabine qu'elle se marie ou pas, à partir du moment où elle est en couple, ou paxée, ou mariée, ça ne change rien. Donc, elle ne touchera pas moins que ce qu'elle touche aujourd'hui.
On prend en compte les revenus du foyer, qu'on soit marié, qu'on ne soit pas marié, mais vous êtes d'accord qu'à partir du moment où le conjoint atteint un certain niveau de revenus, on réduit cette allocation et vous ne remettez pas en cause ce principe?
Non, parce que en fait, on a une autre vision de la chose. C'est-à-dire que si un jour on mettait sur la table le sujet de la déconjugalisation, ce serait pour tout le monde. Ce serait aussi pour les bénéficiaires de l'ASPA, par exemple, les personnes âgées qui n'ont rien demandé non plus à personne de vieillir. Et c'est exactement la même chose, ceux qui bénéficient de l'ASS également. Donc
c'est une question de principe.
C'est une question de principe, c'est une question de philosophie. C'est-à-dire que ces deux visions qui s'affrontent, mais nous, c'est une société qui doit s'adapter au handicap et une société qui voit le citoyen avant de voir la personne en situation de handicap.
Sébastien Jumel, peut-être une réaction d'abord à ce que disait Sabine et ensuite on reviendra sur les grands principes qui font qu'on arrive à cette situation.
D'abord, moi je veux dire à Sabine que son témoignage, comme tous ceux que nous recevons au quotidien, déchire le cœur. C'est un témoignage qui emporte la colère. L'injustice dont elle est victime est une injustice qui n'est pas acceptable. Moi, j'ai pris soin de me replonger dans les sources originelles de la loi portée par Simone Veil.
1975,
En 1975, avec beaucoup d'humanité. Simone Veil, qui a d'ailleurs fait progresser de manière considérable la prise en compte, la prise en charge des personnes en situation de handicap. À l'époque, le secrétaire d'État qui portait ça à ses côtés disait, il y a les sociétés modernes qui doivent considérer que le handicap est irréversible et qu'il implique une solidarité nationale. Et il y a les sociétés anciennes, ancestrales, archaïques, qui eux renvoient sur la solidarité familiale.
Vous éloignez pas trop du micro, Sébastien Jumel.
J'ai une voix grave, normalement.
On vous entend, mais si vous vous éloignez un petit peu.
Cette dichotomie entre société archaïque et société moderne, on la retrouve dans la bouche des marcheurs. Non, l'allocation adulte handicapé n'est pas un minima social. Non, il est faux de dire que si l'on revient sur la déconjugalisation de l'AAH, alors ça emportera cela pour l'ensemble des minima sociaux. Parce que dans l'allocation adulte handicapé, il y a deux choses essentielles. Un, le handicap est irréversible. On le subit et malheureusement, il ne va pas changer, surtout lorsqu'il s'est exprimé à des degrés d'incapacité supérieurs à 50%. Et oui, l'autonomie, le droit d'aimer, le droit de ne pas être subordonné à son compagnon, à sa compagne, pour vivre dignement et vivre son amour d'une manière équilibrée, à égalité, implique que l'on préserve cette autonomie. Et donc, Sabine nous dit bien que c'est une injustice. Alors, dire qu'en 75, Simone Veil n'a pas réglé ça pour ne pas le régler en 2022, ce n'est évidemment pas entendable.
En tout cas, Sébastien Jumel, si je vous entends bien, vous estimez-vous que le fait de déconjugaliser l'AAH n'impliquerait pas forcément de faire la même chose pour le RSA ou d'autres prestations? C'est ce que vous nous dites. C'est là que vous n'êtes pas d'accord.
L'AAH dépend du code de la sécurité sociale. Les minima sociaux dont ma collègue parle relèvent du code de la famille et donc des minima sociaux. Il y a une distinction vraiment fondamentale qui est juridique. Le rapport que nous avons porté en commission des affaires sociales avec... Vous savez, les marcheurs ont tout le monde contre eux. Tous les groupes politiques du Sénat et de l'Assemblée, des communistes jusqu'aux gaullistes en passant par les socialistes, les insoumis, le PRG, Liberté et Territoires, ils ont l'ensemble des associations contre eux. Alors, c'est quand même rare que l'ensemble des associations se fédèrent sur un objet commun. Et puis, 30 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale, c'est la plus grande mobilisation. 100 000 sur celui du Sénat. C'est vous dire que quand on a raison, seul contre tous, on doit s'interroger sur le fait que peut-être qu'on attend.
Alors on va laisser répondre Christine Cloarec-Lenabour sur ce point. Effectivement, vous reconnaissez que toutes les formations d'opposition sont...
Oui, alors
partage le même point de
juste,
vue.
Je voudrais quand même donner la réalité des choses. C'est un minima social comme l'ASPA. L'ASPA est inscrite dans le code de la sécurité sociale comme la SS. Il n'y a pas que l'âge. Donc attention à ne pas dire de bêtises. Quant à vous ne trouvez pas étrange que à quelques mois des élections, toutes les oppositions, eh bien, s'unissent pour une cause.
Ça fait depuis 2019 que le texte, quand même, a été mis dans le circuit.
Oui, et en 2018, les LR au Sénat ont rejeté la proposition de loi sur la déconjugalisation en prônant la solidarité familiale à laquelle il ne fallait surtout pas toucher. Et puis là, eh bien,
depuis deux ans, effectivement, tous les partis d'opposition sont d'accord.
Et puis voilà. Puis
non, mes collègues, cette mesure d'humanité, qui vise à reconnaître.
Sébastien Gemmel, on va juste laisser Christine Cloarec-Lenabour terminer. Et puis après, je vous repasse la parole.
Et puis, n'oublions pas non plus que voilà, enfin, les socialistes ont été aussi au pouvoir. Ils ne sont jamais revenus sur la conjugalisation. Donc, il y a un moment donné, il faut se poser quand même les bonnes questions. Nous avons préféré, dès le début du quinquennat, avoir une feuille de route pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, et nous faisons évoluer la prestation de compensation du handicap, la PCH, qui, elle, doit compenser le handicap.
Promis, Sébastien Gemmel, je vous donne la parole dans une seconde, mais on va retourner au standard de France Inter. Roman nous a appelé, il est en ligne. Bonsoir Roman.
Oui,
bienvenue,
bonsoir.
À vous, on vous écoute.
Merci beaucoup. Et je tiens à vous remercier pour la qualité de vos émissions et de parler de ce sujet qui est très très important.
Merci Roman.
Je vous remercie. Je m'appelle Roman, j'ai 30 ans. Le 13 novembre 2015, on était à la Belle Équipe avec ma compagne. Donc on avait 24 ans à l'époque, on fêtait son anniversaire. Et ce soir-là, elle s'est prise 10 balles. Trois autres copines ont été grièvement blessées. On a perdu un de notre ami ce soir-là. Et suite à cet attentat, elle a fait des longs mois de rééducation. Elle a passé 2 ans aux Invalides. Elle a dû arrêter de travailler. Depuis, elle touche la hache. Et nous, ça fait 12 ans qu'on s'est rencontrés au lycée. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et aux yeux de l'État, on est un couple fantôme parce que je peux pas être sur son bail. On peut pas se taxer, pas se marier. Parce que sinon, elle perd la totalité de la hache. Et donc, c'est vraiment une situation révoltante et incompréhensible. Et je ne sais pas quelle est l'intervenante sur le plateau, mais à l'entendre, elle a des éléments de langage qu'on a entendus hier avec ma compagne, parce qu'on a été reçus par Sophie Cluzel, qui a dit exactement les mêmes arguments qu'on a démontés un petit peu un par un. Et ils ont toujours les mêmes arguments. Qui ne sont pas entendables pour des situations de handicap, pour des personnes en situation de handicap. Parce que nous, on a beaucoup de combats à mener. Et ce combat-là, ça fait un combat de plus. Et c'est très, très dur au quotidien de vivre une situation comme ça.
Roman, on pense à vous, on vous soutient et on va passer la parole à Christine Cloarec-Lenabour, qui est directement interpellée. Vous dites effectivement la même chose que Sophie Cluzel, c'est la position du gouvernement.
Heureusement, sinon je ne serais pas là aujourd'hui.
Non, mais on peut imaginer que certains députés de la majorité puissent éventuellement ne pas être tout à fait sur la même ligne.
Peut-être, mais enfin, pour avoir vécu le handicap pendant 40 ans, je suis sur cette même ligne. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous préférons travailler sur des mesures concrètes. C'est ce qu'on fait depuis 4 ans et demi. C'est 52 milliards pour le handicap. Handicap par an, ça n'est pas rien. Alors derrière ça, bien sûr, mais derrière les chiffres, il y a des mesures vraiment très concrètes.
Mais vous rendez compte
des mesures sur l'emploi.
Que Roman ne se marie pas simplement à cause de ça.
Non mais la conjugalisation, elle concerne pas seulement les personnes en situation de handicap. Et encore une fois, moi je suis très ouverte sur le débat de l'individualisation. Mais faisons l'individualisation pour tout le monde. Mais attention, si on va sur ce débat-là, ça n'est certainement pas dans le cadre d'une niche un jeudi après-midi, mais il faut ouvrir le débat et surtout faire une étude d'impact sur ce que ça engendrerait pour tout le monde, toute la population. On aurait certainement le système de protection sociale moins protecteur que qu'il est aujourd'hui.
Vous savez, Sébastien Jumel, effectivement, pourquoi discuter de ça dans le cadre d'une niche ?
Moi, j'ai le cœur qui saigne lorsque j'entends le témoignage de Romane, et ce n'est pas de la posture. En Marche, c'est le parti des mille et une excuses. Ils avaient commencé par dire « Vous posez les bonnes questions, mais ce n'est pas le bon moment ». Ils ont ensuite développé comme argument qu'il faudrait utiliser un autre véhicule législatif, que c'était la niche n'était pas la bonne occasion. Ensuite, on nous a promis que dans le cadre de la loi de finances, on apporterait des réponses à ce problème sérieux. Enfin, aujourd'hui, dans les nouveaux éléments de langage, on nous dit « ça pose un problème philosophique, nous sommes en désaccord sur la conception que nous avons du handicap et de l'autonomie ». Donc à chaque étape, pour refuser ce droit fondamental à l'amour, ça a été dit avec des mots simples par Romane, les marcheurs nous trouvent des excuses. Quant au prix, au coût, enfin, on vient de traverser une crise sans précédent où, vous l'avez vu, Emmanuel Macron...
Qui n'est pas tout à fait fini d'ailleurs.
Et qui n'est pas terminé, malheureusement, où Emmanuel Macron, chaque jour un peu plus, avec un carnet de chèques, trouve des millions, des milliards pour apporter des réponses qui ne sont pas toujours solides aux problèmes posés. Là, le coût de cette mesure d'humanité, du droit à l'amour, c'est 730 millions qui concernent, vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 200 000 personnes, et c'est un devoir de solidarité nationale. J'allais dire évident, tellement évident, qu'il est incompréhensible qu'il soit rejeté.
Romane est toujours en ligne, et je crois que vous souhaitez rajouter un petit mot, Romane ?
Non, bah, tout a été dit. C'est pas une posture politique comme la ministre a dit, parce que les associations, ça fait des années que tout le monde se bat pour cette mesure. Et votre intervenante a dit qu'on ouvrait le débat. Le débat était ouvert depuis très longtemps et ils l'ont rejeté plusieurs fois à l'Assemblée nationale. Donc voilà, la balle est dans leur camp.
Merci Romane, merci beaucoup d'avoir appelé France Inter ce soir. Oui, merci à vous. Christine Cloarec-Lenabour.
Oui, Romane parle des associations. J'ai souvenir pour avoir suivi la concertation sur le revenu universel d'activité qui a eu un coup d'arrêt puisque on est rentré dans une crise sanitaire qui a un peu percuté les choses. Quand il y a eu la concertation sur le revenu universel d'activité, les associations ont participé à cette concertation. Et le gouvernement avait trouvé une solution avec un revenu universel d'activité socle et une partie qui était spécifique aux personnes en situation de handicap et aux jeunes. Et les associations ont été vent debout et ont refusé cette proposition. Ils l'ont refusée. Et lors de la conférence nationale du handicap, le président de la République a sorti la hache de la concertation. Et ça, c'est pas entendable. Donc moi, je veux bien, mais je suis pas sûre que les associations représentent toujours très bien personnes en situation de handicap.
Vous nous faites bien la transition, parce que la présidente de l'APF France Handicap est en ligne. Bonsoir Pascale Ribes.
Bonsoir.
Vous souhaitez peut-être réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Oui, alors sur le REA, peut-être pas, parce que c'est vraiment pire que la hache. Et puis je pense que je perdrai les auditeurs donc dans les considérations techniques. Oui, on a eu raison de refuser que la hache se transforme en revenu universel d'activité, qui est un minima social qui enferme encore plus dans la logique des minima sociaux. Moi, je voudrais dire que au gouvernement, ça a été dit par Monsieur Jumel, je crois, qu'on n'a jamais raison tout seul, et c'est vraiment... C'est vraiment un sujet. Je pense que le gouvernement devrait entendre la voix à la fois des personnes en situation de handicap, de la société civile dans son ensemble, parce que je rappelle qu'au moment du grand débat, l'ensemble, il y avait eu des votes sur cette question-là, et l'ensemble de la société civile s'était prononcé en faveur de la déconjugalisation. Il doit aussi entendre, me semble-t-il, les parlementaires, au lieu d'empêcher le débat, parce que c'est ce qui a été fait avec la technique du vote bloqué et réservé réservée. Donc, au moins, laissons les parlementaires s'exprimer et nous verrons si la démocratie est pour ou contre la déconjugalisation. De la même manière, je voudrais dire aussi qu'ils devraient aussi entendre la voix de la société civile, je l'ai dit, des autorités indépendantes, le défenseur des droits qui est en faveur de la déconjugalisation et pour donc les motifs qui ont déjà été exposés aussi par les précédents interlocuteurs, par la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et plus récemment par le Comité des droits des Nations Unies. Donc non, on n'a jamais raison tout seul, et là on a vraiment beaucoup de monde en faveur de la déconjugalisation.
Petite question peut-être.
Ne pas rester sourd à ça. Pardon.
Pascal Ribes, si je peux me permettre une question, et ensuite Christine Cloarec-Lenabour vous répondra. Une mesure fiscale a été votée pour tenter de compenser effectivement cette conjugalisation qui a des conséquences négatives pour un certain nombre de personnes. Est-ce qu'elle vous satisfait ou pas, cette disposition qui doit entrer en vigueur au mois de janvier ?
Non, ben, ce nouveau dispositif, en réalité, il ne change absolument rien au problème. Ça n'est en aucun cas, donc, une pseudo-déconjugalisation, même pas une pseudo-déconjugalisation, c'est simplement des modalités de calcul différentes de prise en compte des ressources du conjoint. En fait, c'est un abattement forfaitaire sur la prise en compte, enfin, sur les ressources du conjoint qui atténue un petit peu, et encore, ça dépend des situations, l'effet, des ressources du conjoint sur les modalités de calcul de l'AH.
En tout cas, pour vous, ça ne règle pas le problème.
Ah, mais ça ne règle pas le problème. Je vais vous dire très concrètement. Par exemple, aujourd'hui, l'AH, elle est supprimée dès lors que les revenus de votre conjoint atteignent à peu près, en gros, 2100 euros. Avec l'abattement forfaitaire qui est proposé par le gouvernement, l'AH, elle diminue de la même manière à partir de 1276 euros de ressources par mois de votre conjoint, et elle est totalement supprimée, dans le meilleur des cas, avec l'abattement, autour de 2300 euros. Ça fait vraiment pas une grosse différence. Enfin, vous me l'accorderez quand même. Donc non, la réforme du mode de calcul, on voit bien qu'on est tout à fait toujours dans le même système qui n'est pas de la déconjugalisation.
Merci. Voilà. Merci beaucoup Pascal Ribes pour cette intervention. Christine Cloarec, Lenabour, vous... sur le nombre de personnes qui vont pouvoir bénéficier de...
On fait rentrer quand même 120 000 personnes en plus dans le système. Donc, alors le plafond, il est toujours à 2280. Et effectivement, pour ceux qui vont pouvoir toucher l'AH à taux plein, on fait rentrer 120 000 personnes, 120 000 couples en plus pour percevoir l'AH à taux plein. Donc, c'est quand même une très belle avancée. Ce qu'il faut...
Mettre un abattement alors qu'il suffirait peut-être de déconjugaliser pour que les choses soient beaucoup plus simples. Mais... Je rebondis sur ce que disait Sébastien Jumel tout à l'heure, qui parlait du quoi qu'il en coûte qu'on a connu pendant la crise. Est-ce que c'est aussi un problème tout simplement financier? Vous disiez tout à l'heure, attention, le RSA et les autres prestations. Ça coûterait combien de déconjugaliser la AH? 600 millions d'euros?
C'est même pas une question de coût. C'est une question de vision et du regard qu'on a sur le handicap. Nous voulons lutter contre cette assignation à résidence et à incapacité. Donc, on veut valoriser aussi les personnes qui doivent travailler. Pour ça, on a fait quoi ? On a mis en place des mesures pour favoriser l'accès à la formation et à l'emploi des personnes en situation de handicap. On a mobilisé les entreprises comme jamais, qui ont recruté, là, depuis la crise sanitaire, 10 000 personnes en situation de handicap de plus. C'est énorme. Ils ont recruté aussi des jeunes en apprentissage. C'est ça, pour nous, notre bataille, elle est que toutes les personnes en situation de handicap soient vues comme des citoyens à tiers, et puissent accéder à la formation, à l'emploi, à l'école, comme tout le monde.
Sébastien Jumel.
Écoutez, je crois vraiment que ce n'est pas un sujet technique, même s'il y a de l'hypocrisie chez les marcheurs en disant que ce n'est pas qu'une question de coût, puisque le gouvernement a lui-même reconnu, pour refuser l'amendement en deuxième lecture, que ça coûtait trop cher. Mais retenez cette phrase de Simone Veil. La dignité de tout homme ou de toute femme dépend de son degré d'autonomie, et l'autonomie suppose des ressources suffisantes. Nous sommes au lendemain de la journée consacrée aux violences faites aux femmes. 34% des femmes en situation de handicap sont victimes de violences. Et nous le savons, et vous le savez comme moi, la question de la subordination, de la dépendance financière dans le couple peut être de nature à empêcher, y compris le règlement de ce type de violence intrafamiliale. Il y a donc une question sociétale, il y a effectivement une différence d'approche entre vous et nous. En 10 minutes, vous êtes capable de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune pour les plus riches, ça coûte 3 milliards d'euros, et vous tergiversez, vous refusez depuis 2 ans d'entendre l'unanimité des associations et l'unanimité de la classe politique qui vous dit que cette mesure est une mesure de cœur, d'humanité. Le droit à l'amour n'a pas de prix, notamment pour ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Alors vous nous dites, enfin vous savez, moi j'ai commis un rapport de commission d'enquête sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap, j'allais dire de la naissance jusqu'à la tombe, sont confrontées à des parcours du combattant qui sont des humiliations à répétition. En refusant de céder sur la déconjugalisation de l'AH, vous commettez une humiliation supplémentaire, une humiliation ultime que les témoignages que nous avons entendus vous renvoient au visage. Vous êtes courageuse, vous venez sur ce plateau, mais ce n'est pas tenable comme position.
Je voudrais qu'on aille, oui, Christine Cloarec-Lenabour, vous allez pouvoir répondre parce que c'est quelqu'un, c'est Frédéric qui est en ligne de Dienville, qui a une question de fond à poser sur justement, je crois, ce système. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Merci, bonsoir à tous, merci de m'avoir donné la parole. Bon, la question que je voulais poser a pu être... Excusez-moi.
Non, mais je vous en prie, vous vouliez parler de la solidarité familiale et,
oui,
de, la,
voilà,
et de la solidarité nationale, c'est ça?
C'est en entendant les arguments de madame, de l'intervenante, madame Le Cloarec, hein, c'est ça?
Christine Cloarec-Lenabour.
Voilà, qui est intervenue d'ailleurs à l'Assemblée nationale, hein, au moment des débats. Donc, quand elle parle de travail, de qu'elle préfère que les handicapés travaillent plutôt qu'on leur donne de l'argent, bon, je pourrais justement parler de toute cette philosophie actuelle qui consiste à culpabiliser les gens parce qu'ils travaillent pas assez, à vouloir mettre les gens au travail, mais je vais pas rentrer sur ce terrain-là. Je préfère rester sur le domaine philosophique, comme elle dit, hein, parce que...
Et peut-être une question, Frédéric, alors?
Oui, alors ma question, c'était justement sur la solidarité familiale. C'est possible quand on a de l'argent. Hein. Les couples qui sont lésés par la déconjugalisation, ils sont souvent dans des situations vraiment très très limites. Hein. Je ne sais pas si, en gros, ça voudrait dire qu'une personne handicapée qui cherche l'amour. Elle est obligée finalement de chercher quelqu'un de riche pour que tout se passe bien. Si elle trouve quelqu'un au revenu modeste, elle sait qu'elle va précariser. Alors non seulement elle va être dans une situation encore plus précaire, contrairement à ce que disait madame, hein, parce que passer de 900 à 200, il y a quand même une différence. Hein, c'est pas une question de reste à vivre seulement, c'est bien une question de déconjugalisation. Et donc... Quand elle choisit l'amour et éventuellement une famille, fonder une famille, elle va non seulement se précariser elle-même, mais précariser son conjoint, précariser ses enfants. Hein. Quand ils voudront faire des études à 20 ans, le fait qu'il y ait un enfant, ça sera plus pris en compte dans le calcul de l'AAH. Enfin, je rejoins tout à fait le monsieur Jumel.
Je vous remercie. Non, mais c'est-à-dire que il y a une pendule devant moi et je suis obligée de vous arrêter. Ce serait avec plaisir. Mais allez. Et puis il y a Christine Cloarec-Lenabour qui veut vraiment réagir à la fois à ce que vous dites vous, Frédéric, et à ce qu'a dit Sébastien Jumel juste avant. Christine Cloarec-Lenabour.
D'abord, ça va peut-être vous choquer, mais je n'ai pas la même conception de l'amour. Enfin, voilà. Moi, j'ai suivi mon mari et j'ai été contrainte, effectivement, de le suivre et d'être complètement dépendante de lui. Ça s'est plutôt bien passé. Mais ceci dit, je n'étais pas en situation de handicap. On oublie un petit peu trop que, en plus de l'AAH, il y a la prestation de compensation du handicap. Ce sont des aides humaines, des aides techniques, des aides, une PCH qu'on a fait évoluer. On a fait la PCH parentalité pour les parents. On a fait la PCH pour les personnes en situation de handicap psychique. Et on peut encore la faire évoluer parce qu'il y a de nombreuses inégalités de traitement en fonction des territoires, du territoire dans lequel vous vivez. Je voudrais revenir aux violences faites aux femmes. Les femmes qui subissent des violences, pas seulement les personnes en situation de handicap. Il faut combattre ça, oui. On a pris des mesures pour les personnes en situation de handicap, les femmes qui sont qui subissent des violences, pour qu'elles puissent toucher leur AAH à taux plein dès qu'il y a un signalement de violence. Et puis, les dernières enquêtes qui ont été faites en Nouvelle-Aquitaine sur le sujet où on a justement concerté les femmes en situation de handicap, je suis désolée, mais il y a quand même aussi un risque que le conjoint capte cette AAH à taux plein pour l'utiliser.
Chaque jour, alors, pour,
excusez-moi, mais ça sort d'une nouvelle enquête, hein, donc je ne vous mens pas. Donc il faut aussi savoir ça. Et les violences faites aux femmes, elles doivent être appréhendées pour toutes les femmes qui subissent des violences dans notre pays.
Mais je me permets de vous poser la question à ce stade, quand même, de la conjugalisation et de notre système social et de notre système fiscal, parce que c'est quelque chose qui commence à être remis en cause. C'est quelque chose qui existe dans peu de pays. C'est pas forcément le cas dans les autres pays. Là-dessus, Sébastien Jumel, vous pensez qu'il doit y avoir une réflexion, y compris peut-être au niveau de l'impôt, même si c'est pas tout à fait le sujet de ce soir?
Alors, moi, je suis évidemment pour ouvrir une réflexion au niveau fiscal, pour mettre à contribution les plus riches et épargner les plus précaires, et pour faire en sorte que l'impôt retrouve sa vocation originelle d'être redistributif en fonction de la solidarité nationale. Je veux revenir sur le sujet. Enfin, de quoi parle-t-on? L'AAH, c'est pas des salaires de ceux qui sont dans le luxe, le calme et la volupté. 903,60 euros, c'est en dessous du seuil de pauvreté, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que le combat que nous menons dans l'hémicycle, dans la pluralité politique, le combat que mènent les associations pour préserver cette allocation d'autonomie pour adultes en situation de handicap, n'est pas un combat pour préserver un privilège, c'est un combat pour préserver le minimum de dignité qui ne doit pas être amputé lorsqu'on a fait le choix, et c'est un sujet important, de la vie amoureuse. J'ai fait venir, moi, à l'Assemblée nationale, des jeunes de l'APEI de chez moi, qui ont joué une pièce extraordinaire devant les députés, qui s'appelait « Droit debout ». Et dans cette pièce magnifique, pleine de sensibilité, parce que lorsqu'on prend le temps d'écouter les jeunes adultes, les adultes en situation de handicap, on en prend, j'allais dire, plein le cœur. Il revendiquait le droit à l'amour comme un droit fondamental. Je partage cette volonté-là, et c'est la raison pour laquelle je pense vraiment que tous vos arguments techniques, vos arguties technocratiques, y compris sur la perspective de la PCH, que vous n'avez pas voulu bouger, parce qu'on était en commission mardi, les marcheurs eux-mêmes ont reconnu qu'il y avait, sur les questions de prestations, compensation, handicap, des progrès considérables à faire sur la prise en charge humaine, l'accompagnement humain. J'ai fait le beau film de François Ruffin sur les métiers du lien n'est pas intégré dans les questions du handicap. Vous le savez, les accompagnants sont précarisés, les aidants ne sont pas encore reconnus. Et donc, tout ça, c'est du blabla pour refuser un droit fondamental qui est le droit à l'amour, symbolisé par l'âge.
Alors, Sébastien Jumel, je voudrais juste qu'on prenne. Yann, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, si vous faites court, je vous prends à l'antenne. Vous me promettez que vous faites court? C'est la dernière intervention. Après, ça sera terminé. On vous écoute, Yann.
Eh bien, oui, en fait, moi, c'était juste par rapport au fait, surtout le surcoût du handicap, quoi, et justement par rapport aux aides qu'on peut obtenir. Déjà, c'est pas beaucoup, et puis c'est la croix et la bannière pour les obtenir, et surtout, c'est pas pris en compte, quoi. Parce que moi, j'en suis à plus de 50 000 euros que je dois dépenser, et que je peux pas avoir tous les sous pour
équiper et la maison et le reste, c'est ça.
Exactement.
Merci Yann, je suis obligée de vous couper, j'en suis absolument désolée. Christine Cloarec, le Nabour, d'abord peut-être pour répondre à Yann. Effectivement, ça coûte cher d'être handicapé.
Alors, c'est une vraie question, et là je rejoins Sébastien Jumel, on a besoin de faire évoluer cette PCH, cette prestation de compensation du handicap, parce qu'aujourd'hui, elle est inégalitaire selon les territoires. On a créé la cinquième branche et on a donné des missions à la CNSA, à la Caisse Nationale Solidarité Autonomie, pour accompagner les maisons départementales pour les personnes handicapées, pour que les gens soient mieux formés, puissent réellement se caler sur les besoins réels des personnes en situation de handicap, et attribuer une prestation de compensation du handicap à la hauteur des besoins. Et puis moi, j'ai envie de poser une question à Sébastien Jumel, parce que c'est plus une question de niveau de vie, effectivement, que de déconjugalisation. Et je ne suis pas persuadée que la déconjugalisation va régler tous les problèmes des personnes en situation de handicap. J'ai été enfant aidante pendant 40 ans. Je peux vous dire que l'autonomie, ça passe aussi. Vous pouvez très bien avoir plus d'argent, mais si vous ne pouvez pas circuler, si vous ne pouvez pas aller à l'école, si vous ne pouvez pas travailler, si vous ne pouvez pas accéder à tous les établissements recevant du public, alors vous restez chez vous. Et si c'est ça l'autonomie, alors...
Alors on va laisser Sébastien Jumel vous répondre. Et...
Écoutez, il y a évidemment plusieurs leviers à actionner pour faire en sorte que les citoyens, les personnes en situation de handicap soient des citoyens à part entière. L'accessibilité dans les transports, dans les services publics, dans la culture, il faut un statut pour les aidants, il faut faire en sorte que l'inclusion scolaire ne soit pas un slogan mais une réalité. Et nous avons, et j'ai formulé des propositions nombreuses dans ce domaine-là. Mais évoquer les autres problèmes pour ne pas régler celui qui est l'urgence du moment signifié par les associations et par les groupes politiques, ça s'appelle un leurre politique, ça s'appelle une posture politique. Là où je suis confiant, Claire, c'est que lorsqu'un mouvement est puissant, lorsqu'il est porté par la société dans sa pluralité, il finit par l'emporter. Et moi, je suis convaincu que les marcheurs, enfermés dans leur certitude, finiront par céder devant la puissance de ce mouvement pour le droit à l'amour symbolisé par la...
Ce sera le mot de la fin pour vous. On va laisser Christine Cloarec, le Nabour, conclure. Juste une petite question. Ce sera donc jeudi prochain, cette niche oui. parlementaire. Vous pensez que vous allez voter comme un seul homme à La République En Marche?
Écoutez, comme les dernières fois, puisque ça fait 3 ou 4 fois que nous sommes dans l'hémicycle pour parler de ce sujet, nous avons des arguments, nous avons un bilan à défendre. Tous les chantiers sont ouverts, ils ne sont pas fermés. La route, elle est encore longue, mais encore une fois, notre objectif, c'était de changer le regard sur le handicap et de privilégier aussi ceux
c'est fini. Mais je vous remercie beaucoup Christine Cloarec Le Nabour. Bah oui, c'est le téléphone sonne, c'est comme ça, ça se termine. Un très grand merci à tous les deux d'être venus un vendredi soir. Merci à Sébastien Jumel, Christine Cloarec. On suivra évidemment le débat jeudi prochain à l'Assemblée.
Mais attention à la déconjugation.